RMC Running,
Geoffrey Charpie.
Salut à tous et bienvenue dans RMC Running, le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Avec le marathonien de l'équipe de France, le coach, l'athlète, le consultant. En fait, t'as combien de casquettes, Yodu?
Toutes. Je sais pas combien j'en ai beaucoup.
Ça va, tu vas bien?
Je change au rythme de mes envies. Donc aujourd'hui, je suis consultant RMC Running.
Ok, allez, d'accord.
Je suis là pour ça.
Mais je pense que toi, les casquettes te vont bien, mais le bob ne te va pas du tout. Je pense que t'as pas une tête à bob.
Ah non, ni à bonnet. Bon, je sais pas ce que j'ai une tête. J'ai une tête à radio, je crois, en fait.
Ah, mais c'est très bien. Ouais, c'est ça. T'as un physique de télé et une voix de radio, c'est pour ça.
Voilà.
Bon, t'es pas trop stressé parce qu'on rappelle que ton jeune padawan, Benoît Boutron, il s'aligne sur un 10 km demain, hein, le 28 avril, le 10 km du Poids de Boulogne. Est-ce que t'as un petit message à lui faire passer?
Bah, je sais qu'il va pas se perdre parce que c'est ses terrains d'entraînement. Donc s'il fait une erreur de parcours ou il me dit ouais j'avais pas prévu cette côte, c'est un menteur. Hein.
Est-ce qu'il y a un chrono que tu lui as fixé?
Aucun.
Aucun.
Alors,
le
là,
plaisir.
C'est course plaisir. Ouais non là on parle souvent des compétitions. Des fois tu mets des dossards juste pour mettre des dossards et histoire d'y aller parce que c'est un dimanche matin devant la porte. Mais là c'est typiquement le cas. Ouais là c'est il se fait plaisir. Et puis on verra plutôt un 10 km plutôt fin mai et après bah, le marathon pour tous comme pas mal de coureurs qui ont eu la chance de gagner lors de ça.
Bon bah très bien, en tout cas on l'embrasse ton jeune padawan, on lui envoie plein de force, plein de courage et encore une fois
plein
merci
repos,
à toutes.
Plein de repos, plein de choses.
Oui bien sûr, bien sûr, et surtout un fast food après la course, c'est quand même assez important. Encore une fois, merci à toute la communauté RMC Running pour les chiffres qui augmentent chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous suivre, merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de téléchargement de podcast et à laisser des commentaires plutôt positifs, hein, ça fait toujours plaisir à l'ego de notre maître Yodu.
Oh, même négatif, allez-y, si vous avez des trucs à nous dire.
C'est vrai. RMC Running reçoit cette semaine Yodu, un ovni de la course à pied, ou plutôt de la course très très longue distance. Christian Mauduit, passionné d'ultra-endurance et préparateur mental, est notre invité cette semaine. Avec lui, on va revenir sur toutes ses courses les plus fun, les deux, et notamment une qu'il vient de terminer en Angleterre, dans l'obscurité, le froid, l'humidité, le tout dans un tunnel d'un peu plus d'un kilomètre, complètement ahurissant. Il a même fini deuxième de cette édition. Christian sera avec nous en studio pour tout nous dire. La séance de la semaine, je sais qu'elle te plaît, Yodu, sera consacrée forcément au profil de Christian. Comment identifier et respecter son poids de forme, car Christian le racontera, mais il a donc réussi à terminer une des courses les plus compliquées du monde, avec 10 kilos supplémentaires par rapport à son poids de forme. Et ça, c'est très fort. Alors, est-ce important, ce fameux poids de forme? Doit-on absolument se focaliser dessus? Le maître Yodu passera au tableau. Alors, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on va borner, se mentaliser, prendre des provisions, du café et entrer dans un autre monde.
Ça, c'est la voie fermée, là, c'est le tunnel fermé, et là-bas, ça va être le tunnel ouvert.
Là, il y a juste une borne qui sera là pour bip, pour enregistrer qu'on a fait le demi-tour. De l'autre côté, il y a le départ et l'arrivée. Tous les gens qui viennent ici savent ce que c'est que de courir 160 km.
Une énorme bonbonne de café.
Au début, quand on est super en forme, peut-être 10 minutes pour traverser le tunnel. À la fin, quand on est moins en forme, on met un quart d'heure, on met 20 minutes. Je crois que ce qui est marquant dans le tunnel, c'est qu'on perd la notion du temps comme on a pu le jour. Le seul truc qu'on peut avoir, c'est un sac, juste un sac. Et alors, il est dehors, donc s'il peut, il est mouillé. C'est cadeau. En fait, vous avez des bonnes raisons de continuer et des bonnes raisons d'arrêter. Et au bout d'un moment, vos bonnes raisons d'arrêter, eh ben, elles sont plus fortes que vos bonnes raisons de continuer. La distance, elle peut être impressionnante, 330 km, ok, c'est long. Ça n'a pas l'air facile de faire 320 km là-dedans. Et arriver à faire quelque chose de difficile, bah, moi j'aime bien. Alors, moi je dors pas. Les bonnes raisons d'arrêter, c'est vous êtes en train de vomir dans le tunnel tous les 20 mètres. C'est une très très bonne raison d'arrêter. Et c'est classique sur les courses très longues comme ça, de faire des hallucinations la deuxième nuit. Ils coupent la lumière la nuit entre 23h et 5h du matin. J'ai vu des voitures, j'ai vu des ponts, j'ai à peu près tout vu en fait.
Bon ben voilà, je viens de terminer le tunnel ultra, j'en vous félicite, c'est cool, super expérience, je suis le premier à avoir fini deux fois cette course.
Simplement le meilleur. Johan, là tout de suite, en réécoutant ces petits extraits de nos confrères du Parisien qui ont réalisé une formidable vidéo sur l'exploit de Christian, est-ce que cette course elle te donne envie?
Quand tu l'entends dire qu'il a eu des hallucinations, ça donne envie, mais je suis curieux d'en savoir plus, tu vois, quand même, parce que c'est particulier.
Et ben justement, Christian, il est avec nous en studio, il a fait le déplacement, merci infiniment. Ça va, Christian?
Ben oui, ça va très bien.
Tout va bien?
C'est lumineux ici, de la lumière.
Ça te change un petit peu?
Ben c'est ça, oui. On aurait pu imaginer un studio dans le noir, mais non, c'est lumineux, c'est bien.
Quand tu réécoutes ces extraits et tout de cette fameuse vidéo du Parisien, tu te revois, est-ce que d'un côté, tu dis, j'ai été complètement... un petit peu fou de faire ça, ou au contraire, tu te rends compte de l'exploit que tu as réalisé?
Je me dis surtout que je me suis réinscrit et c'était une très bonne décision parce que c'est vachement bien.
Ouais.
Ça me rappelle des bons souvenirs. Donc ouais, non, ça m'évoque des bons souvenirs en fait. C'est bien le tunnel, moi je vous recommande d'y aller. Bon, là, c'est cramé pour cette année parce que les inscriptions seront terminées. Mais...
Ah, c'est fini, on peut plus y aller avec Johan, c'est fort.
Cette année, c'est cramé. Non. 2026.
Et oui. Et je crois savoir en plus que tu reviens juste des États-Unis pour ton travail. Ça va le décalage horaire, ça n'a pas été trop compliqué à gérer?
Non, ça va parce que oui, quand c'est comme ça, je n'y suis pas allé très longtemps. Et quand c'est comme ça, je profite des matinées où je me réveille naturellement très tôt pour aller courir.
Ouais.
Je suis allé courir sur les bords de l'Hudson River. Là, c'est magnifique, c'est super.
C'est pas mal. Quand tu dis réveil très matinal, parce que Johan est une feignasse, c'est une marmotte, c'est quelle heure?
Alors, réveil très matinal, avec le décalage horaire, là, c'était 3h30 du matin.
Ouais, c'est ah oui, là, c'est très matinal. Ouais.
Tu fais quoi à 3h30 du matin, toi, Yodu?
Oula, bah, normalement, je suis couché depuis un moment.
Ah bah oui. Très bien. Bon, bah, Christian, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. On va détailler dans un instant ton histoire, mais tout de suite, on va apprendre à mieux te connaître.
RMC, le CV de coureur.
Christian, tu as quel âge?
J'ai 48 ans.
Et depuis quand tu cours?
J'ai dû commencer à courir vers l'âge de 2-3 ans, comme tous les enfants en fait. En vrai, hein, c'est ça, on marche à 15-18 mois, puis on court assez rapidement.
Ok. Tu cours combien de fois par semaine?
Alors, je ne sais pas s'il y a une règle là-dessus. Ça peut aller de 4 à 11 fois. Quand je suis en période de repos, ouais, je vais courir 2-3 fois par semaine, parce que j'en fais pas, ouais, des caisses. Quand je suis vraiment sérieux et que j'ai envie de performer, ouais, je peux monter à 10, 11 fois par semaine.
Ah oui, donc très souvent du bi-quotidien.
Ouais, tout à fait. Mais quand je m'étais entraîné vraiment pour le marathon, parce que j'avais envie de voir ce que je valais sur le marathon, j'ai mis le paquet et j'étais à 10, 11 fois par semaine.
Ok, et ça représente combien de kilomètres par semaine?
Alors, période de repos, je vais être à 40-50 bandes par semaine, tranquille. Quand je m'entraîne un petit peu sérieusement, je suis à 120-130, on va dire.
Ah oui.
Et ça m'est arrivé, rarement, mais ça m'est arrivé de monter à 200 dans la semaine. C'est extrêmement rare, ça m'arrive, il y a des années où je ne le fais jamais, mais si le besoin s'en fait sentir, ouais, je vais monter à 200 par semaine.
Ok, ta dernière course disputée?
Eh ben, c'est le tunnel.
C'est le fameux tunnel. Et la prochaine?
Eh ben, c'est un 6 jours que je vais faire en Ardèche dans une semaine.
Ouais. Est-ce qu'il y a des records perso dont tu es fier?
Eh ben justement, oui, je suis sur 6 jours, 871 km, j'en suis très content. je suis un petit peu un bandit parce que les catégories d'âge commencent à 35 ans sur 6 jours et il y a des tablettes avec les records mondiaux, etc. Et je suis dans les tablettes depuis une dizaine d'années parce que personne n'a essayé entre 35 et 40 ans de faire mieux que ce que j'ai fait. Donc, voilà, je suis dans les tablettes. Bon, c'est un record, c'est une médaille en chocolat, hein, c'est un record, ouais, catégorie d'âge sur une course qui est très très confidentielle. Donc, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, ouais, j'en suis content.
Alors, question pour l'instant, t'as ce record. Yodu, juste à quel âge?
Joker.
parce que je pense que t'es pile poil dans la fourchette entre 35 et 40, non?
Oui, mais 6 jours, ça ira.
Non, c'est bon, stop.
Non, je me contente de mes 25-30 km par jour. Déjà, j'arrive à tenir ça, c'est déjà pas mal.
Eh ben, ce sera très bien. Christian, est-ce que tu as une séance de fractionné préférée?
Ah,
ou une séance de running préférée? Ça peut être la sortie longue.
Alors oui, non, ma séance préférée, c'est ma sortie longue sur les bords de Seine. J'ai un petit 25 km tout à fait... Alors j'ai 19 ou 25 que je fais assez souvent.
Ouais.
Et oui, non, ça c'est vraiment ma sortie plaisir. Je me mets un bon podcast, j'y vais tranquille, voilà, c'est... Parfait.
Magnifique. Et celle que tu détestes?
Celle que je déteste, je sais pas. Je crois que la séance que je déteste, c'est celle où j'ai pas vraiment le temps de faire la séance que je veux. Ou...
Ouais.
Ouais, c'est celle où j'ai pas le temps, quoi. Où j'avais envie de faire 15 et puis finalement, il faut que je sois rentré parce qu'il faut que je parte au boulot parce qu'il y a un truc et celle-là, elle m'embête parce que.
C'est frustrant.
Ouais,
si je suis pas fluide, je suis pas bien, je pense à autre chose, ça m'énerve. Voilà. Mais si j'ai le temps, tout me plaît. Moi, je peux faire du. En fractionné.
Du fractionné piste comme de la sortie longue, ouais.
Absolument, ouais. Un bon fractionné où sur la 10e série, on est là. Ah non, mais quand même, là, c'est bien aussi.
Eh ben, on est là, on va prendre le temps. Promis, là, on va vraiment se poser, on va pouvoir raconter ton histoire. Merci beaucoup d'être avec nous, Christian. Tu es donc spécialiste de l'ultra-endurance. Avec de l'ultra-trail, de l'ultra-triathlon ou de l'ultra-cyclisme, si c'est pas ultra en fait, je me suis dit, t'y vas pas.
Si c'est avec des potes, vraiment je vais y aller, mais comme j'irai à un pique-nique quoi, mais oui, non, si c'est pas long, ça m'intéresse pas trop. Oui.
Ouais, tu as fait des courses, j'ai lu ça en préparant l'émission, où tu as pu courir jusqu'à 800 km rien qu'en écrivant ça. J'ai eu un petit peu froid dans le dos, mais j'aimerais déjà que tu nous racontes. Ouais, ça fait peur, hein, Yodu. J'aimerais que tu nous racontes comment tu es venu un petit peu cet amour de la course à pied et surtout des très longues distances.
Alors, c'est venu petit à petit, j'ai augmenté progressivement. Alors, progressivement, si on suit les conseils qui disent « oui, alors, il faut augmenter que 10% », on ne fait jamais de l'ultra. Hein, donc, à un moment, il faut faire des grosses marches. Mais c'est venu vraiment très, très progressivement. Puis, je crois, en fait, c'est juste que ça marchait bien, en fait. J'avais des bons résultats. Et donc, si ça marche bien, on continue. On sent qu'il y a un petit truc. Et puis, voilà. Donc, finalement... Petit à petit, j'ai augmenté les distances, des fois au culot, des fois parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit « Tiens, mais en fait, pourquoi tu ne viens pas faire ça ?»« Bah tiens, c'est marrant, ils font ça. » Finalement, ils ont l'air, ils ont deux bras, deux jambes, ils ont l'air normaux. Bon, ça doit être faisable. Et puis, j'ai tenté le coup, puis ça a marché.
Ouais.
C'est tout.
Parce que tu as couru plus d'une centaine d'ultra dans ta vie, tu en as gagné plus de 10. Est-ce que tu as réussi à performer très rapidement ?
Pas vraiment, pas vraiment. Je crois que mon premier Ironman, c'est 98. Donc, on va dire que voilà, et mon premier ultra à pied, c'est 2004. Et j'ai commencé à avoir des résultats qui font qu'on sort un peu du lot en 2008-2010. Donc, voilà.
Yodu, on en a reçu des personnalités différentes, atypiques dans RMC Running, mais le profil de Christian, vraiment, il est singulier. Partir tout de suite sur la longue distance comme ça, c'est assez rare.
Ouais, c'est assez rare. Après, c'est certainement ce qu'il aime. Moi, j'avais noté qu'il avait fait 2h52 au marathon, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Ouais,
c'était quand sur même, quel parcours ?
C'est pas mal, hein ?
Paris.
À Paris ?
Ouais. Paris qui est pas du tout roulant. Donc, en plus, Johan, tu le dis très souvent, 2h52 à Paris, ça peut valoir un 2h50 sur un marathon roulant.
2h50 largement. Donc, effectivement, c'est un coureur, il l'a dit, hein, il s'entraînait déjà presque du bi-quotidien. Donc, mais après, moi, je suis effaré par sa capacité de longévité. Tu sais, les gens qu'on reçoit sur Trail, on les reçoit aujourd'hui, mais ça fait 3, 4, 5, 6 ans qu'ils sont montés sur la distance. Donc, tu sais pas s'ils en feront encore dans 3, 4 ans. Alors que là, Christian, ça fait depuis son premier Ironman, pardon, c'était en 1998. Ça fait un petit moment, quoi.
T'en gardes un bon souvenir de ton premier Ironman ?
Oui, excellent, excellent. J'ai appris plein de choses. Il y avait deux, le marathon, c'était deux semi-marathons et j'avais tout misé sur tu fais un semi et ensuite tu repars. Et comme ça, en fait, tu es sûr de finir parce que tu n'as plus qu'un semi à faire.
Ouais.
C'était pas idiot comme démarche.
Tu avais divisé ta course en deux parties.
Voilà, donc c'était pas idiot. C'était finalement avec le recul, c'était un bon choix et je recommanderais de faire ça. Mais il y a juste eu un petit problème dans ce plan-là, c'est que je me suis retrouvé sur le deuxième semi. On était en plein milieu d'après-midi, il devait faire 38 degrés, j'étais complètement cuit, j'avais plus rien en stock et je me suis retrouvé à 4 km/h, ma foi. Et là, on commence à faire des calculs.
Là, c'est long, là.
C'est long, ouais.
Mais en fait, c'est une excellente expérience parce qu'on apprend plein de choses en faisant ça. J'ai quand même terminé avec un gars, on s'est aidé l'un l'autre. Donc, superbe aventure, en fait, humaine, sportive, génial, trop bien. Ouais.
Johan, ça t'est arrivé comme ça de terminer une course toi, t'es athlète de haut niveau, donc c'est un peu particulier, mais j'ai envie de dire à l'agonie ou presque en disant là, j'avance plus, là, c'est trop dur, c'est trop compliqué.
Bah, pas vraiment. Je reste quand même dans des allures courables, même quand j'ai explosé. Si tu veux, j'ai explosé sur des allures à 3:30, donc ce qui est une explosion pour moi, mais qui est à 30 secondes de ce que je visais.
Ouais.
Mais oui, je ressens. Enfin, j'ai le souvenir de moi du marathon des championnats d'Europe de Berlin où au 37 c'était long, j'avançais plus et là c'est un long chemin de croix mais qui dure allez 5 km, tu vois. Alors j'imagine quand ça dure plus longtemps, c'est vrai que c'est pas évident et effectivement moi je l'ai vu pour le marathon de Paris puisque j'étais sur la fin de course et j'ai vu passer les coureurs en 3h, 3h30, 4h.
Ouais.
Et il y en a pour qui c'est un vrai calvaire, mais après quand tu as l'objectif d'être finisher et de finir cette épreuve, c'est sûr que tu l'as fini dans un mauvais état, mais tu l'as fini et c'est ton objectif d'être finisher. Nous à haut niveau, quand tu sautes, tu as quand même la facilité de devoir abandonner parce que tu peux pas te permettre de terminer dans un état presque dangereux pour ta santé. Tu vois, si tu finis totalement déshydraté, rincé, blessé musculairement, tu vas mettre un mois et demi à récupérer. Alors que si tu bâches, 15 jours après, tu peux repartir sur un nouvel objectif. Donc nous, c'est différent parce qu'il y a quand même un objectif de... T'es obligé d'être performant assez régulièrement et si ça passe pas, bah, t'as la solution de facilité de réessayer plus tard, quoi.
Christian, tu te retrouves totalement dans ce que dit Johan avec les distances que tu parcours pour tes différentes courses. À chaque fois, l'objectif, c'est de terminer la course. Tu te mets jamais en tête un chrono?
Si, ça m'arrive d'avoir un chrono. Alors après, je comprends complètement la logique de Johan et elle est logique et j'ai fini par la comprendre. Au bout d'un moment, quand j'ai commencé entre guillemets à monter en gamme et à plus performer, effectivement, ça sert à rien de s'acharner sur une course si on met en danger la course d'après. C'est en gros, c'est ça la logique. Hein. On va pas pourrir une saison pour juste une course, ça n'a aucun sens. Et dans mon boulot, je vais avoir ce genre de raisonnement.
Ok.
Maintenant, sur les ultras, ce qui m'arrive moi, c'est que je termine pas forcément pour satisfaire mon ego et dire ah ben non j'ai pas abandonné c'est plus que bon ok la performance est pas là maintenant de toute façon j'ai posé mes congés le temps il est booké, j'ai mon dossard, je suis là, tout est prêt et ben finalement je vais apprendre des choses, je vais apprendre comment on gère dans la difficulté, je fais des expériences sur l'alimentation etc. De toute façon chrono il est foutu, je ferai pas une super perf là. Et donc, j'engrange de l'expérience parce qu'il y a toute une logistique qui est déployée autour de moi et je profite de ça, en fait. Mais c'est une démarche assez pragmatique, finalement.
Tu viens d'évoquer un point qui est assez important pour moi parce qu'on parle de tes chronos, on parle de tes différentes courses depuis tout à l'heure, mais tu n'es pas professionnel du tout. Je crois que tu es ingénieur de formation et tu as un boulot à côté, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, mais en ultra, vous n'avez quasiment pas de professionnels. Je crois qu'il y en a plus de... Alors, en trail, il y en a quelques-uns, des gens comme Jornet, etc. Effectivement, ils sont pros, mais bon... Il y en a un peu plus que sur les doigts d'une main, mais il n'y en a quand même pas énormément. Sur route, il n'y en a pas. Je crois qu'il y en a un en ce moment qui est en train d'éclater tous les records du monde possibles et imaginables, Sorokin.
Ouais.
Donc lui, il est professionnel, effectivement, mais bon, il y en a un, quoi.
Et malgré tout, t'es licencié dans un club d'athlétisme ou tu fais tout suivant tes envies ?
Alors, je suis licencié dans un club de triathlon à Beson, juste à côté de chez moi. Mais bon, il ne me voit pas souvent, en fait. parce que je m'entraîne tout seul, je n'ai pas le temps c'est déjà compliqué, donc je m'entraîne quand je peux. Je m'entraîne le matin entre 6 et 8, je m'entraîne quand je peux.
Okay. Triathlon, c'est parce que tu ajoutes la natation et le vélo dans tes sorties ?
Alors, la natation, j'aimerais bien. J'y vais jamais. c'est pas grave. Je nage comme une paire de tenailles, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et le vélo, ça me fait des super partenaires de vélo quand j'ai envie de rouler. Donc, voilà. Donc, le triathlon, c'était plus rationnel que la course à pied pour moi.
Il me semble que tu es également champion du monde de Deka Ironman en 2010, champion du monde de double Deka Ironman en 2019. Franchement, c'est comme tout à l'heure, Yodu, quand j'ai écrit ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça ? Ironman, on connaît, Décathlon, on connaît, triathlon, on connaît. Alors, là, il y a un gros mix.
Je ne suis pas champion du monde. Ah. Soyons précis. J'ai gagné la course qui avait lieu cette année-là sur la distance en question. Pas exactement être champion du monde, parce qu'il y a un championnat du monde qui est organisé. Enfin, bref. Techniquement, j'ai gagné la course, c'était la seule course de l'année. Voilà.
Ok, mais quand ils disent DK Ironman, c'est qu'est-ce qui change par rapport à un Ironman, j'ai envie de dire classique ?
Bah, c'est juste 10 fois plus long, c'est tout.
Et vas-y, fais-nous peur, raconte-nous les distances.
Alors ouais, DK, c'est 10 fois là. Donc on nage 38 km, ensuite on fait 1800 km de vélo et ensuite on fait 422 km à pied. Et alors, une petite note pour Johan, qui... T'as dû remarquer, Johan, que le marathon, c'est pas 42 km, il y a 200 mètres en plus, donc
oui,
on les sent bien, ces 200 mètres.
Ouais. Ouais.
Mais pour info, quand ils sont multipliés par 10, on les sent encore plus.
C'est vrai.
C'est sur le vélo, sur la natation, sur la course à pied, sur une course comme ça, où c'est le plus compliqué ?
Alors, je crois que c'est un petit peu. À ce niveau de distance, c'est un petit peu sur tout, en fait, en vrai, parce que pour le cas du DK, bon, le double DK, c'est encore pire. Mais pour le DK, en fait, 38 km en natation, c'est déjà très long. C'est-à-dire que les courses de 38 km en natation, c'est extrêmement rare. Ça peut exister, mais en général, c'est plus des gens qui se font des défis, etc. Donc, je parle, le long en natation, ça va être 10-15 bornes, et puis après, ils s'arrêtent, ils jettent l'éponge. Donc là, 38, c'est vraiment très long, c'est en piscine, donc bon.
38 km en piscine ?
Ouais.
Ah oui.
Oui. Et donc le double DK, 76, voilà. Il faut faire des mathématiques un peu. Donc c'est long, c'est très long. C'est un jour, deux jours dans l'eau pour des gens qui nagent pas très vite comme moi. Donc, en plus, moi je suis pas nageur, hein, donc c'est pas ma tasse de thé. Donc c'est compliqué. Il y a des problèmes musculaires qu'on a rarement normalement en natation. Normalement, voilà, ok, c'est un sport de glisse, ce qui est important, c'est le mouvement, etc. On fatigue un peu. Et là, on a vraiment des douleurs musculaires, mais handicapantes. C'est-à-dire qu'on a du mal à relever le bras, etc. Donc, la façon dont on nage se retrouve impactée, on a froid. Enfin, il y a un tas de problèmes qui, normalement, n'arrivent jamais, qui, là, se mettent à arriver. Le vélo. Au-delà de 500 km, il y a des tas de problèmes. Pareil, normalement, on n'a jamais ces problèmes-là, mais qui se mettent à arriver. Des problèmes de selle, de fessiers. Hein. Vous imaginez ce qui peut se passer. Enfin, bon, bref.
Oui, assez. Oui.
Voilà. Des problèmes. Des problèmes de fatigue, de danger, de risquer de tomber bêtement du vélo si on s'endort sur le vélo. Parce que bon, si on s'endort à pied, au pire, on tombe de sa hauteur, mais on se bat très, 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 très mal. En vélo, on peut vraiment se faire assez mal en fait en tombant. Donc, tas de problèmes qui normalement n'existent pas, mais qui se mettent à arriver. Et à pied, bah, pareil, 400 km, une fois que vous commencez fatigué en plus. Donc là, il y a des tas de problèmes d'ampoules, de trucs bizarres.
Et c'est sur une boucle de combien le vélo et la course ?
Alors, quand j'ai fait le DK, c'était une boucle de 1800 mètres vélo-course, la même boucle. Et quand j'ai fait le double DK, le parcours à pied, c'était un aller-retour, 1 km dans un sens, 1 km dans l'autre. Et le parcours vélo, c'était une boucle de 7 km.
Oh, 7...
Et comment tu réussis à faire passer le message à ton entourage, à ta famille, à tes amis proches, quand tu leur dis que tu t'alignes sur une telle distance ? Est-ce que la fameuse question qui vient régulièrement quand on reçoit des personnes qui font de la longue distance, le premier mot, c'est, on leur dit souvent, hein, j'espère on ne le dit pas dans RMC Running, mais tu es fou. Est-ce qu'il y a une certaine folie ou pas ?
Bon, la folie, c'est... Finalement, c'est sortir un petit peu de la norme, quoi. Donc, ça sort de la norme. Oui, bon, est-ce qu'on est fou ou pas ? Bon, j'ai l'impression que j'ai pas besoin d'un suivi rapproché et qu'on me laisse en liberté. Donc, je pense pas être fou. Après.
Mais t'as quand même conscience des dangers et des risques, potentiellement, quand tu t'alignes sur une course qui fait plus de 500 km ou que tu fais 10 fois un Ironman.
Alors, danger, risque, honnêtement, sur un DK, un double DK, ou un 6 jours sur circuit, il n'y a pas de risque. Hein. Honnêtement, le risque est nul. On est sur circuit, il y a des coureurs tout le temps. Si vous tombez, quelqu'un va prévenir, on va dire il est tombé.
Oui, il y a des secours. Ouais.
Voilà, donc le risque est vraiment pas très, très important et vraiment pas pire que sur un marathon. Évidemment, si vous avez une fragilité, elle va peut-être se déclencher à ce moment-là. Ouais. Et ça, c'est... Ouais, c'est comme ça, c'est triste, il y a des accidents régulièrement, on n'y peut pas grand-chose, c'est un risque résiduel. Mais non, il n'y a pas beaucoup de risques. Quand j'avais traversé les États-Unis en vélo, là, il y avait du risque.
Traversé les États-Unis en vélo d'est en ouest ?
D'ouest en est, hein, depuis le Pacifique vers l'Atlantique. Et là, il y avait du risque, là, c'était dangereux.
Ok, c'était une compétition sportive ou c'était un défi que tu t'étais lancé ?
C'est une compétition qui a lieu depuis le début des années 80, et qui s'appelle la RAM, la Race Across America, et donc c'est en vélo, et on... Et là, on est sur route ouverte et on essaye d'aller le plus vite possible. Il y a une voiture qui nous suit, mais malgré ça, il y a régulièrement des accidents. C'est extrêmement dangereux. Et là, il y a du risque, vraiment.
Johan, la course du tunnel, non, mais t'aimes bien faire du vélo un petit peu de temps en temps. T'as pas envie de découvrir les États-Unis comme ça ?
Bah, c'est là que tu le découvres le mieux, pour de vrai, le pays. C'est pas en y allant quelques jours en avion, c'est sûr. Ouais.
C'est vrai, c'est vrai.
Tu traverses tous les États, enfin, une partie.
C'est vrai.
Ça doit être sympa, ouais.
Christian, on va revenir dans un instant sur ton exploit récent en Angleterre à l'occasion de l'Ultra Tunnel. Mais j'aimerais revenir sur l'une de tes particularités. En 2021, alors que tu avais 46 ans, tu as obtenu un diplôme universitaire de préparateur mental à l'université Clermont-Auvergne, dans la plus belle ville du monde, bien évidemment, Clermont, l'Auvergne. Et oui, c'est beau, il y a les montagnes, il y a tout, il y a du fromage.
D'accord.
Tu en ressentais le besoin, Christian ? C'était un cap important pour toi pour progresser en course à pied ?
Oui, c'était un cap important pour moi. Alors oui, de manière très entre guillemets égoïste, moi, pour progresser. Et puis j'estimais à ce moment-là que je commençais à avoir quelque chose à transmettre et pour le transmettre de manière plus structurée en fait, plutôt que juste faire partager mon expérience comme ça. Je fais une formation académique et pratique aussi, hein, avec des aspects très pratiques. Et voilà, il y a ce côté. Moi, franchir un cap et être plus mature dans mon approche du sport, et puis aussi transmettre, en fait, les deux.
Est-ce que tu as eu cette démarche, du coup, de transmission par rapport aux autres ? Est-ce que toi, ça t'est arrivé sur tes exploits précédents, avant d'obtenir ce diplôme, de craquer sur certaines courses, mentalement ?
Craquer mentalement, oui. Mais avant que je fasse de l'ultra, en fait, sur des courses, je me rappelle un craquage monumental, mais sur une course... C'est peut-être 800 mètres, 1500 mètres, et j'étais adolescent. Hein, donc vraiment tout au début, et explosion complète. abandon, vraiment.
Ok.
Décrochage total, définitif, sans comprendre pourquoi. Enfin, vraiment, oui.
Alors que physiquement, ça allait à peu près.
Alors que physiquement, ça allait, tout à fait, ouais.
Johan, tu parles souvent de l'importance du mental en course à pied, que ce soit bien évidemment sur route, sur piste ou sur trail, mais la démarche qu'a fait Christian, je la trouve vraiment très intéressante de pouvoir, entre guillemets, s'auto-aider en fait sur les prochaines courses. Bien évidemment, partager son savoir-faire et son expérience aux autres, mais surtout s'aider soi-même.
Ouais, c'est aussi l'expérience qu'il a acquis au fil du temps qui lui ont permis de mieux gérer ses émotions, sa concentration, parce que des efforts comme il le fait, c'est usant, tu vois. Tu dois passer vraiment par toutes les émotions. Souvent, on parle du marathon où on dit que pendant 42 km, on découvre des choses insoupçonnées au fond de soi, au fond de son cerveau, dans le cadre d'émotions pures et dures. Mais là, quand c'est des efforts aussi longs, effectivement, lui, il a appris sur le terrain, il a connu tous les contextes particuliers de ces courses difficiles. Donc effectivement, il est capable de mettre des mots et d'aider les personnes qui ont besoin d'être aidées sur de la prépa mentale. Donc effectivement, il n'y a pas mieux que quelqu'un qui a vécu ce que vous recherchez. Ouais. Mmh.
Christian, tu te reconnais dans ce que dit Johan, l'aspect mental, il est encore plus fort sur la très très longue distance plutôt que sur route, entre guillemets, hein, je mets des immenses guillemets, sur une petite distance comme le marathon, comme tu avais pu faire à New York.
Alors justement, ça a été l'intérêt de faire une formation et de ne pas me baser que sur mon expérience, hein, c'est parce que ça m'a apporté de la perspective. Et vous pouvez avoir quelque chose de très très... très très court, mais qui demande des capacités mentales incroyables. Je veux dire, quelqu'un qui fait un 100 mètres,
ouais. C'est ça. Ouais.
Et c'est ça, rien que le départ, à réussir son départ.
La concentration, arriver...
ouais. Et oui, donc il y a des choses... Donc moi, j'ai un biais cognitif qui est... Je m'intéresse énormément à ce qui se passe à la fin. En tout cas, j'ai une perception de l'effort qui s'inscrit dans une certaine durée, donc j'ai des biais. Mais il y a plein d'autres, d'autres logiques, d'autres dynamiques dans lesquelles la préparation mentale est intéressante. Et voilà, la formation m'a beaucoup aidé là-dessus, en fait, pour pouvoir aider d'autres personnes que celles qui font exactement ce que je fais. Parce que celles-là sont très, très rares. Et en général, d'ailleurs, elles savent ce qu'elles font déjà.
Et donc, du coup, avec ce diplôme, aujourd'hui, on peut te contacter. Moi, je suis allé sur ton site pour préparer l'émission. Et les gens viennent parler running et préparation mentale avec toi?
Oui, c'est ça. Moi, je fais essentiellement du suivi individuel. Ouais. Mais voilà, ouais. Pour la petite anecdote, je suis quelques personnes, notamment un club qui ne font pas de la course à pied, mais un sport dont vous avez peut-être ou pas entendu parler, qui s'appelle le chess boxing.
Ah, pas du tout. Johan ?
Moi non plus.
Ouais.
Et je vous invite à regarder ça. C'est fantastique. Okay. C'est des gens qui jouent aux échecs et qui boxent.
Ah oui ?
Voilà.
Okay.
Entre chaque coup, ils se mettent une peignée.
Non, ils font ça par tranche de 3 minutes. Ils jouent aux échecs 3 minutes. Ensuite, ils boxent. Hein.
Okay.
Et ils recontinuent ensuite la partie d'échecs qu'ils avaient commencé avant. Et là, ça devient très, très intéressant.
Au
bout d'un moment, il n'y a plus de lucidité totale là, sur les échecs, normalement.
Sauf qu'en fait, celui qui est lucide, il va gagner.
Et tout ce jeu-là, Johan, je te verrais bien, toi, jouer aux échecs et boxer en même temps.
Ah, le concept est sympa, j'avais jamais entendu parler.
Ah ouais, le concept est génial. Écoute, Johan et moi, on ne connaissait pas, on va vite se rencarder, on va aller voir des photos et des vidéos
sur ça. Ouais.
Exactement. Mais là, tout de suite, j'aimerais parler avec toi forcément de l'ultra-tunnel. Parce que Johan, cette musique angoissante, elle est de circonstance. Nous sommes à Bath, au Royaume-Uni. C'est une des courses les plus...
Rien que la ville... Vaut mieux être dans le tunnel que dans la ville.
Normalement, à Bath, il n'y a qu'un club de rugby. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait un tunnel comme ça, long d'un peu plus d'un kilomètre. C'est l'une des courses les plus dures du monde. 44 participants se sont retrouvés cette année avec un seul but. Parcourir 320 km en moins de 55 heures dans un tunnel abritant une ancienne voie ferrée au fin fond de la campagne anglaise. Alors pour résumer, Johan, tu l'as compris, il faut faire donc plus de 300 km en aller-retour durant plus de 2 jours dans un tunnel d'un peu plus d'un kilomètre. Sans assistance, dans le noir et sans dormir pendant 2 jours. Un chiffre, pour vous donner encore plus peur, 95% d'abandon en 5 éditions. Mais ça, c'était sans compter sur l'excellence à la française. Et oui, car toi, Christian, tu es devenu le premier coureur à avoir réalisé l'exploit de franchir la ligne d'arrivée à 2 reprises. Tu l'as fait début mars, et encore une fois, bravo et félicitations au nom de toute l'équipe RMC Running. Quelques semaines après cet exploit, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait ?
Oui, mais on s'en rend plus compte que sur le moment où... Oui, bon, on a juste fini et puis on a quand même un peu envie de se reposer.
Ouais.
Après, voilà, il faut quand même relativiser. Hein. J'ai fini deux fois la course, c'est bien, mais il y a quand même un gars qui m'a collé 3 heures la deuxième fois. Là.
Ouais. Donc,
la question que je me pose, c'est comment je récupère ces 3 heures. Plutôt récupérer 4 heures pour être encore 1 heure devant.
Ouais.
Voilà, nous. C'est super, c'est un jalon. Moi, je suis content de l'avoir fait. Je pense que j'aurais pas pris le départ si j'avais pas eu envie de le faire. Maintenant, l'histoire est pas finie.
Oh, tu es en train de nous teaser quelque chose. Est-ce qu'il y aura un flip-it, comme on dit en NBA, un back-to-back-to-back?
Ah ben moi j'y retourne l'année prochaine, je suis inscrit. Hein.
Ah ça y est, c'est acté.
Ah oui, c'est fait, j'ai payé les droits d'inscription il y a 2 semaines. Donc,
Eh ben voilà, c'est magnifique.
Moi qui voulais prendre le dossard, quel dommage.
Oh, après peut-être que dans un bon plan dossard, on peut peut-être essayer de s'arranger avec l'organisation britannique, Johan. Tu veux vraiment qu'on se rencarte sur le dossier ou
non,
pas?
Non, ça ira.
Ça ira. T'as parlé de temps, Christian, il y a quelques secondes. Je vais préciser qu'au final, il y a 7 coureurs qui sont arrivés au bout cette année, dont toi. Tu as même fini deuxième avec un chrono de 46 heures, 49 minutes, 34 secondes. Et pour rappel, tu avais remporté cette course en 2021 en 51 heures et 40 minutes. Là, tu mets donc quand même 5 heures à ton record personnel. Avant vraiment que tu nous racontes la course en elle-même, j'aimerais que tu nous racontes la préparation. Comment on se prépare à une telle course, en fait?
Ce qui se dit souvent, c'est que plus les courses sont longues, plus ce qui compte, c'est pas tellement l'entraînement qu'on a fait avant, c'est un peu le CV, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez fait ces 10 dernières années? Et c'est ça, en fait, qui, à la fin, va faire la différence. Et il y a du sens là-dedans, parce que votre entraînement, il va vous donner une condition physique, il va vous donner un tas de choses, mais au bout d'un jour ou deux, tout ça, c'est un petit peu ratatiné, en fait, et ça ne sert plus à grand-chose. Enfin, ça sert, mais c'est vraiment les ressources, la longue traîne d'entraînement qui va servir. Donc, comment on se prépare à ça? Et on fait plein d'ultra avant, et en l'occurrence, c'est mon cas, donc j'ai plutôt un bon profil pour faire ce genre de course. Après, sur celle-là, spécifiquement, comment je me suis préparé? Pas très bien, pas très bien. J'avais vraiment pas assez de kilomètres sur janvier et février, c'était l'enfer.
Dû à une blessure ou c'était compliqué à ce moment-là?
Non, dû à les interactions, le boulot, tout. Enfin voilà, je suis pas professionnel, donc
oui.
je fais ce que je peux. Et là, ce que je pouvais faire, c'était pas au top. Après, il y a une leçon là-dedans à retenir, c'est que même quand l'entraînement il est pas optimal, même quand tous les événements se sont ligués contre vous. Et donc, en gros, pour faire court, j'avais, je crois, sur le mois de février, j'avais 250 bornes en tout, sur tout le mois. Ce qui, pour faire une course comme ça, est vraiment extrêmement léger. Logiquement, il faudrait le double. Mais votre entraînement, il est ce qu'il est. Maintenant, on va sur place, on fait au mieux, on continue la mission, et puis on se dégonfle pas, quoi. Donc, voilà.
À aucun moment, tu t'es dit, mon entraînement, il est pas assez... qualitatif, je vais pas prendre le départ de cette course, même si tu t'étais inscrit, je suppose, bien évidemment, il y a plusieurs mois.
Non, je prends quand même le départ. Le pire qui peut m'arriver, c'est j'arrive pas à finir la course et mon ego est tout ratatiné, je me sens pas très fier et je reviens avec un mental un petit peu en berne à la maison. Mais c'est tout, c'est pas très grave, en fait, ça.
Johan, tu penses que du coup l'expérience et le diplôme du coup que Christian a obtenu en tant que préparateur mental, ça l'a forcément aidé dans cette édition?
Mais complètement, mais après là où je le rejoins, c'est quand il dit que c'est l'expérience des années précédentes qui lui permettent aussi d'être beaucoup plus fort sur ces épreuves-là. Et juste pour donner un exemple, tu vois, moi j'ai un pote qui a fait le marathon de Paris et c'était son premier dimanche. Et au 35e, il a explosé complètement, il finit à pied, il finit vraiment en marchant, explosion. Et ça, c'est un truc, et pourtant, il s'est bien entraîné, il s'est bien préparé. Sauf que quand tu n'as jamais fait de marathon, tu ne peux pas connaître cette sensation en fin d'épreuve. Quand tu as beau t'entraîner dur toutes les semaines, tu as beau faire, 150 km par semaine, jamais tu reproduis l'état de fatigue physio-mentale d'une épreuve comme le marathon. Et alors, c'est encore plus vrai sur ces épreuves d'ultra. Et effectivement, c'est quand tu as réussi à trouver les leviers, des fois par moment, pour te remettre dedans, quand tu es capable de dormir juste 5-10 minutes et que ça te suffit pour repartir pour quelques heures. Tout ça, c'est des choses que tu emmagasines avec l'expérience et que tu as beau t'entraîner tout ce que tu veux, tu peux pas, c'est des choses que tu peux pas reproduire à l'entraînement. Donc effectivement, c'est passer des compétitions comme ça qui font que tu progresses.
Parce que ce tunnel, forcément, on imagine le froid, l'obscurité, l'humidité. C'est tout ça ou c'est bien pire, Christian?
Alors, L'obscurité cette année, c'était un petit peu moins pire qu'en 2021, parce qu'en 2021, ils ont changé les lampes entre 2021 et 2024. Et donc là, il y avait plus de luminosité. Donc honnêtement, à part les 6 heures de nuit où là, c'est noir total.
De 23h à 5h du matin, c'est ça?
C'est ça, ouais. Exactement. Le reste du temps, finalement, il faisait pas jour, mais c'était pas si désagréable que ça. Donc ça va. Mais effectivement, cette année, extrêmement humide, froid, il y avait de la neige dehors. Donc ça, c'était vraiment compliqué. Pour information, selon où on est dans le tunnel, la température change en fait.
C'est-à-dire que bah, au milieu du tunnel, ça doit cailler. Ouais.
Eh ben non, en fait, il fait plutôt plus chaud.
Parce que dehors, il fait froid.
Là, comme il faisait dehors, il gelait en fait, il faisait moins 3. Et en fait, plus on allait, en particulier quand on allait vers le haut du tunnel, puisqu'il est légèrement en pente, il y a des endroits, il faisait presque bon en fait. Il devait faire un petit 15-17, c'était pas mal.
Ah, c'est pas mal ça.
Tu sors en extérieur ou le demi-tour se fait encore à l'intérieur du tunnel?
Très bonne question. On sort parce que vraiment la ligne est quasiment exactement à l'endroit où le tunnel s'arrête. Hein.
D'accord.
Donc on sort de 3-4 mètres. Quoi. S'il pleut, on est mouillé, mais c'est tout. Quoi. Mm. Mais pendant 3 mètres. Quoi.
Parce qu'on l'a écouté dans le petit montage introductif, c'est-à-dire qu'il y a des barrières en fait, à l'entrée et à la sortie du tunnel où vous devez biper. En fait. Vous êtes équipé d'une puce?
Exactement, il y a une puce, oui. Il y a une puce il faut passer le tapis et voilà.
Et donc on imagine, Johan l'a très bien dit tout à l'heure, déjà basse au fin fond du Royaume-Uni, c'est quoi, raconte-nous ce qu'il y a autour, il n'y a vraiment rien, c'est une voie ferrée?
Ouais, c'est une voie ferrée, donc la voie ferrée elle est un petit peu à l'écart de la ville, donc là c'est vraiment dans un petit coin de campagne anglaise tout mignon. Donc d'un côté on voit la ville en fait, hein, et de l'autre on voit juste la campagne, c'est vraiment très joli. Mais on est assez, enfin, on est quand même un petit peu loin de la ville en vrai, hein, donc
ouais.
On voit personne. Et alors cette année c'était particulier parce qu'il y avait un tunnel qui est dans l'axe de ce tunnel-là, c'est-à-dire que là, c'est une piste cyclable maintenant, et donc d'habitude il y a des cyclistes qui passent, qui se promènent, parce que c'est typique en fait, c'est rigolo. Et là en fait la piste cyclable était bloquée un petit peu plus loin parce que le deuxième tunnel était fermé. Et donc, il n'y avait littéralement personne. Donc, on s'est vraiment... Alors là, c'était très, très intimiste, en fait, en plus avec la neige. On va pas faire du vélo comme ça un week-end dans un cul-de-sac couvert de neige. Il y a peut-être des gens... Il y a des originaux qui l'ont fait, mais ils ne sont pas très nombreux. Quoi.
Parce que du coup, c'est une course où les écouteurs sont prohibés, il n'y a pas d'assistance non plus. Et donc, en plus, il n'y a pas de public, il n'y a personne.
Et personne, ouais, il n'y a pas de public. Public interdit, mais
c'est
normal.
Il n'y a pas d'assistance.
Pas d'assistance, enfin, il y a... L'organisateur met à disposition une table de ravitaillement avec des bars offerts par ses sponsors, qui sont pas mauvaises d'ailleurs.
Ok.
Puis de l'eau, voilà. Donc il y a de l'eau, des bars, des toilettes, mises au milieu d'une énorme flaque d'eau, ça c'était pas cool. Et c'est tout. Et le reste, c'est tes habits, c'est ta bouffe, il faut aller tout amener dans son sac. Et si on vous prend à avoir de l'aide extérieure, ben vous êtes disqualifié.
Et comment on gère cette différence de température dans le tunnel? Parce que tu le disais, au milieu du tunnel, il fait pratiquement bon. Dehors, il gèle. En termes de vêtements, tu pars sur quoi?
Alors, moi, ma technique habituelle qui est... Alors là, le gradient de température... Il est important, mais il n'est pas gigantesque non plus. C'est entre guillemets que 10-15 degrés. Il faut un certain temps pour commencer à avoir trop chaud ou trop froid. Donc il y a ça, hein, le fait que quand on a froid, on sait qu'au bout de 10 minutes, on aura à nouveau chaud. Et sinon, ma façon de gérer ça, c'est d'avoir uniquement des vêtements, à part la couche tout en dessous, éventuellement un t-shirt, mais avoir uniquement des vêtements qui s'ouvrent sur le devant avec une fermeture éclair. Mais donc, il suffit d'ouvrir. Vous ouvrez les couches.
La fameuse technique de l'oignon.
C'est ça. On ouvre et ça évite d'avoir à déposer les vêtements. Et honnêtement, entre avoir juste les manches et être complètement torse nu et être bien mitouflé dans quatre couches, il y a une différence en termes de température qui est gigantesque. Hein.
Alors, il y avait pratiquement 320 km à parcourir. Forcément, en termes d'hydratation et d'alimentation, tu vas nous donner tes secrets, savoir ce que tu as réalisé sur cette course. Mais j'aimerais juste savoir peut-être, Johan, une petite devinette, et ensuite on écoutera Christian. Est-ce que tu penses savoir comment il s'est hydraté, il s'est alimenté sur cette course, Johan?
Je l'ai vu.
Ah, ouais, t'as bossé.
Des wraps jambon poulet, non? C'est pas un truc comme ça?
C'est ça, Christian?
Oui, c'est ça, oui.
Ah, t'as vu? Bah, c'est surtout, j'ai vu que c'était les sucreries. Presque ça m'a donné envie d'y
aller. Ah, ça, c'est intéressant.
En fait, je pense que mon schéma d'alimentation a peu de chances de s'appliquer à d'autres personnes. Ce que je recommande toujours sur des courses longues comme ça, c'est de faire comme d'habitude. C'est-à-dire que moins vous changez, moins vous changez, mieux ça marche. Et donc moi, j'essaye autant que faire se peut de manger sur des courses longues comme ça, ce que je pourrais manger dans ce que j'appelle la vie civile. Mais c'est un petit peu ça l'idée, c'est de se dire, moi les wraps, j'aime bien ça. Après, j'ai essayé plein de choses, hein, mais par exemple les sandwichs, je sais qu'ils passent plus parce que c'est trop sec. Et en fait, ça me prend trop de temps de les mâcher, d'avoir la salive qui imprègne le pain, etc. Ça met du temps, c'est compliqué. Le wrap, ça passe beaucoup plus facilement. Et comment je suis arrivé à cette conclusion ? J'ai juste fait des essais, des erreurs. Ouais. Surtout des erreurs, d'ailleurs, encore plus que des essais, apparemment. Mais c'est ça, en fait. Et c'est l'habitude. Et il y a des choses, je sais maintenant, ça passe pas. En général, ce qui passe pas avec moi, c'est ce qui est trop sec quand c'est long, parce qu'il faut les imbiber de salive. Et ça met un temps fou. Et c'est pas pratique. Voilà.
Yoann, tu te retrouves dans ce que dit...
Aurélien du Nampalas qui mangeait des sushis, tu vois, c'est propre
c'est vrai.
C'est vraiment propre à chacun, ça. C'est ce que t'aimes sur le moment, ce qui va te faire du bien au bout de... C'est un certain temps de course, tu vois, quand... c'est sûr que nous, sur marathon, tu vois, en 2 heures, c'est pas la clé, donc t'as pas cette problématique-là. Mais au bout de 8 heures, t'as pas envie de la même chose qu'au bout de 16 heures, au bout de 30 heures, au bout de 40 heures. Donc effectivement, il faut rester dans ce que t'as l'habitude pour ton estomac, pour toi, pour tes habitudes. Ouais.
Mais après, je suppose, Yoann, que tu te retrouves parfaitement dans ce que dit Christian, et tu le répètes à longueur de temps avec Benoît dans les podcasts, c'est-à-dire qu'une course, peu importe la distance, on va pas inventer des choses. Il faut tout avoir travaillé.
Il faut quelque chose qui te correspond, que t'assimiles, que t'aimes. Ouais, qui te va bien, c'est sûr qu'il ne faut pas tenter ça le jour de la course, tenter des nouveaux produits que tu n'as pas, pas testé et tu ne sais pas si tu vas les digérer ou pas. Ouais.
Et en termes d'hydratation, on a le droit du café quand même ou c'est,
Oui, mais on l'entend d'ailleurs dans le fameux reportage. Là, j'avais prévu du café, beaucoup de café. l'hydratation... Moi, je vais presque jusqu'à me forcer à boire, en fait, parce que je sais que si on ne boit pas assez, on va avoir de graves problèmes. En fait, je surveille le nombre de fois que je m'arrête pour faire une pause technique, en fait.
Okay.
Et si je ne m'arrête pas toutes les heures, si je ne bois pas assez, c'est tout.
Et en termes de... Parce que ça, c'est... Et encore une fois, nos confrères du Parisien ont réalisé une fantastique vidéo. Je vous encourage à aller le voir. Et avec la vidéo, il y a un article. Et je vais vous dire une citation à un moment donné. C'est comme être drogué au LSD. Voilà, donc explique Karl Baxter. Je pense que c'est un concurrent de cette année. Il y a 2 ans, j'ai vu une famille de bonhommes de neige accrochés au mur et un bossu se diriger vers moi, une cigarette à la bouche. Les hallucinations, ça fait... partie du jeu ?
Ça fait partie du jeu. C'est souvent inévitable sur une deuxième nuit, en fait. Une première nuit blanche, ça passe très bien. La plupart des gens ont déjà fait une nuit blanche, soit parce qu'ils sont allés en boîte ou ils ont eu un événement familial ou quoi que ce soit.
Comme
Yoann. qui les a déroutés, qui les a sortis de l'ordinaire. Et donc, une nuit blanche, ça se fait assez bien. Une deuxième nuit blanche, ça devient compliqué. Je ne suis pas non plus un expert du sommeil et du fonctionnement du cerveau à ce niveau-là, mais... Mon analyse, c'est qu'on se met juste à dormir debout, en fait, tout simplement. Et donc, il y a des choses qui se passent et on voit des choses qui n'existent pas. Et dans le tunnel, j'ai trouvé que vraiment, c'était pire que sur l'autre course. Ouais.
Ça a été ton cas ? T'as vu
des choses
cette année ? Voiture arrivée.
En 2021, pas en 2024. Parce qu'en 2024, justement, j'ai décidé, quand je sentais que ça allait plus, de faire une toute petite pause pour dormir 5-10 minutes. Mais en 2021, j'ai vraiment eu des hallucinations, mais incroyables, vraiment sortant de l'ordinaire. C'est-à-dire que j'ai
un moment, les fameux éléphants roses, des trucs comme ça.
J'ai vu des barrières, des voitures, des balcons, ce que vous voulez. Et à un moment, j'ai même vu un escalier qui descendait et j'étais obligé. À un moment, j'ai avancé le pied doucement devant l'escalier pour pas tomber dedans. Et puis j'avais l'impression de marcher sur du verre au-dessus de l'escalier. On est sur une hallucination où vraiment, même en touchant, on continue à voir quelque chose qui n'existe pas. Donc on est assez loin quand même dans le processus.
C'est assez compliqué. Est-ce que ça se travaille, en fait ? Est-ce que tu t'es entraîné à faire des nuits blanches ?
Est-ce que je me suis entraîné à faire des nuits blanches formellement, non. Mais au moment où je prends le départ de cette course-là, j'ai plus d'une dizaine de courses à mon actif qui ont duré plus de 5 jours. En continu. Donc, le concept de passer une nuit blanche à faire des trucs, je connais bien. Mais je l'ai fait en compétition, essentiellement. Je m'entraîne très rarement comme ça à lutter contre le sommeil.
Du coup, la course, c'était une course du coup, de 320 km. Tu l'as bouclée en 51h40. Est-ce que tu connais ta vitesse moyenne sur la course? Parce que j'avoue, je n'ai pas fait le calcul. Mais
Non, mais on doit pouvoir retrouver ça rapidement parce que je connais un petit peu mes gammes par cœur. 7 km/h, c'est 169 km. 8 km/h, c'est 192. Donc, on doit être à peu près à 7 km/h, un tout petit peu en dessous de 7.
C'est énorme, Johan.
51 heures, ouais.
51 heures, 320 km. Toi, Johan, c'est quoi qui te surprend le plus? C'est la performance mentale ou la performance physique?
Bon, les deux. Ouais, c'est ça, c'est du 9,33 au kilo, ça fait 7, un peu entre, ouais, 6,5, pas loin des 7. Non, c'est les deux, ouais, c'est la capacité au corps quand même à encaisser des charges monumentales, que ce soit le manque de sommeil et la course, et le fait de le faire dans des conditions dans un tunnel, quoi. C'est-à-dire que là tu peux pas te, des fois en trail on dit que tu vois, quand t'es au sommet tu passes le col du Galibier en trail, excuse-moi, t'ouvres les yeux, tu vois la montagne, tu vois les paysages. Ça te revigore, tu vois le lever du soleil, tu vois le coucher du soleil qui peut être merveilleux et tout. Donc ça, des fois, les mecs, ils se raccrochent à ça. Mais là, quand t'es dans un tunnel où t'as que l'obscurité et la lampe frontale de tes concurrents qui arrivent en face, tu pousses le corps humain dans ses retranchements, ouais. Donc c'est monstrueux, hein.
Forcément, t'es d'accord, Christian?
En fait, ça fait partie de... ça a pas beaucoup de prise sur moi, tout ça. Je pense que ça explique le fait que j'arrive à monter au classement. C'est-à-dire que, physiquement, je vaux ce que je vaux, mais j'arrive à faire la différence par rapport à d'autres sur justement ce rapport à cet ennui possible qui pourrait arriver. Moi, je suis assez résistant. Pour info, j'ai fait des 48 heures sur tapis, j'en ai fait deux, donc j'ai passé deux fois 48 heures sur un tapis. Sur tapis, ouais,
long,
le paysage, il change pas beaucoup. Hein. Il change encore moins que dans le tunnel, pour être tout à fait honnête.
Moins que dans le tunnel, ouais.
C'est très long. Ouais. Toi, Johan, qui est forcément un adepte du tapis, tu adores ça, 48 heures sur un tapis, tu...
48 minutes déjà, c'est long.
Tu te verrais bien.
Alors 48 heures. Non, mais après, tu sais, on parle souvent de pourquoi tu cours et tout, et c'est vrai que chacun a son propre pourquoi, et moi, je suis de l'école, le côté... plaisir, ce côté où justement j'aime le footing parce que tu vois, je supporte pas la natation parce que je suis enfermé dans une piscine et que je vois que des carreaux et rien d'autre. Quand tu vas courir, tu vois du paysage, ça défile vite, t'as cette sensation de courir un peu vite. Moi je kiffe courir dans des beaux endroits. Mais effectivement, Christian, pour le coup, lui, c'est pas son pourquoi. Lui il a un autre pourquoi. Et après, ça, c'est vraiment propre à chacun. Hein.
Et justement, sur ce côté, le paysage, etc., moi, j'ai une frustration, c'est de ne pas pouvoir courir les yeux fermés, en fait. Hein, parce qu'au bout d'un moment, y a un côté, en ce qui me concerne, dans ma course à pied, voyage intérieur, sensations, etc. Et j'adore sentir mon corps qui va rebondir, toutes ces choses qui vont avec la course à pied, les bras qui bougent, la transpiration, la respiration, les poumons qui se remplissent, qui se vident, la mécanique qui marche bien. Mais je suis toujours obligé d'ouvrir les yeux et de me connecter à mon environnement extérieur, parce que sinon je vais me casser la gueule pour le cours. Hein. Et ça m'arrive vraiment des fois de fermer les yeux, bon, pas trop longtemps, parce que je sais qu'au bout d'un moment, il va m'arriver des bricoles. Mais j'adore ça, en fait, juste le côté, toutes les sensations, sauf la vue qui est intéressante, mais c'est un sens qui a déjà tellement d'importance que des fois on oublie un petit peu les autres, en fait.
Et tu sais, Johan, tu as soulevé la fameuse question du pourquoi tu cours. Normalement, avec Benoît, vous la posez à chaque invité en début de podcast. Et hier, en me renseignant sur le site internet de Christian, il y avait la fameuse question du pourquoi tu cours dans la description. Ah. Et je crois que la réponse de Christian, elle m'a plus fait rire que la question, c'était « et pourquoi pas ?» J'ai trouvé ça fantastique. Parce que forcément, on doit te la poser dans ton entourage, dans tes amis proches. Pourquoi tu fais ça? Quelles en sont les raisons?
Oui, et puis il y a toujours cet argumentaire qui moi m'épate toujours. Ouais, vous êtes allé, tu cours, mais après tu cours sur un circuit, mais après tu reviens toujours au même endroit, tu vas nulle part. J'ai envie de dire, mais à part quelques personnes qui, au cours de leur vie, ont émigré et ont changé de pays, la plupart des autres, ils sont toujours revenus à leur point de départ. Donc C'est tout. C'est valable pour n'importe quel déplacement, en fait.
Exactement. En tout cas, merci, merci beaucoup, Christian, d'être avec nous tout de suite. On passe à la séance.
RMC, la séance.
Et ce fameux poids, Johan, une source d'inquiétude ou de questionnement pour beaucoup de runners. Alors, certains ne font que regarder la balance, d'autres s'en foutent totalement. Voilà, ils n'hésitent même pas à salir pour nettoyer ensuite, comme le disait si bien le chef colombien Juan Arbeláez. Johan, la première question que j'aimerais aborder avec toi, forcément, on va parler de ce fameux poids de forme. Est-ce que toi, tu le connais, ton poids de forme?
Ouais, je dirais que je le connais de par mon expérience perso. C'est vrai que tu te connais, tu connais ton... là où tu te sens bien dans ton corps et dans tes performances. Donc moi, je l'estime entre 60 et 61 kilos. Ouais,
Ah oui, c'est quand même très précis, oui.
En dessous, j'ai l'impression de manquer de force et d'être un peu faible. Et au-dessus, bah, t'as cette sensation d'être pour le coup un petit peu lourd. Ouais.
Ok. Et là, tout de suite, ça va, on est bien?
Non, là, on est un peu en surpoids. Là. Moi, je vais pas te mentir. Il y a bien un petit... Ah, je suis pas monté sur la balance. Tu vois, quand je sais que j'y suis pas, parce que tu le sens.
Ah, tu veux pas y aller?
Je mets pas le pied dessus pour pas m'énerver.
Ah oui, d'accord. Alors, si on a choisi ce thème de séance aujourd'hui par rapport au poids de forme, c'est que Christian va nous le dire dans un instant. Mais donc, du coup, tu as terminé la fameuse course du tunnel avec 10 kilos supplémentaires par rapport à ton fameux poids de forme. Mais j'avais une deuxième question pour Johan. Est-ce que cette fameuse notion de poids de forme, elle veut dire quelque chose?
Ouais, elle est quand même essentielle si tu veux optimiser tes perfs, et puis c'est surtout vis-à-vis de ta santé, tu vois. Le poids de forme et le poids d'un coureur, c'est quand même un axe d'amélioration de tes performances, tu vois. Si tu as un poids de forme qui est adapté, tes performances, elles seront meilleures, parce que ça signifie moins de résistance, une meilleure efficacité de mouvement. Tu as l'impression de courir plus longtemps sans pouvoir te fatiguer, tu vois. Donc en termes de performance, tu es quand même meilleur quand tu es plutôt un gabarit léger que long, et que ça soit sur les distances, c'est pour les distances, ça c'est vrai pour les distances en dehors du sprint, tu vois, tout ce qui est demi-fond court, sprint. Là, c'est peut-être l'inverse, parce que tu as besoin d'énormément de puissance et de alors qu'en demi-fond, non. Et après, c'est surtout la réduction du risque de blessure qui est importante. Parce qu'un poids excessif, un coureur un peu lourd, on le voit, hein, tu as plus de pression sur les articulations, sur tes tendons, sur tout ça. Donc en fait, plus tu es léger et plus ton risque de blessure... de fractures de fatigue, d'entorse, surtout des douleurs articulaires, hein, au niveau des genoux, au niveau des tendons, ça tire quand même beaucoup moins à l'impact au sol quand tu fais 60 kilos que 90 kilos. Et puis après, pour revenir à l'aspect performance, c'est vrai que les coureurs un peu en surpoids, ils ont une difficulté de régulation de température. C'est-à-dire que tu as un peu ce phénomène de surchauffe où si tu veux maintenir un... faut favoriser la régulation du corps. C'est quand même essentiel pour être performant. Et plus tu es lourd, et plus justement tu as tendance à être un petit peu en surchauffe. Ouais.
Christian, je te voyais acquiescer. Tu te retrouves?
Ouais, tout à fait. Le phénomène de surchauffe, effectivement, moi, je suis plus vulnérable à ce problème-là. Mais essentiellement, dès que je dois aller vite ou qu'il fait très chaud, c'est rarement le cas, mais on est vulnérable quand on est un peu plus lourd, c'est sûr.
Ok. Mais pourquoi, du coup, avoir pris cette décision sur l'Ultra Tunnel 2024, du coup, d'être parti sur la course avec 10 kilos supplémentaires par rapport à ton poids de forme? T'en ressentais le besoin?
C'est pas vraiment une décision calculée. Et c'est plutôt, l'effet raclette, quoi, on va dire.
Ouais.
C'est l'hiver qui était passé par là.
En fait, il faudrait que la course soit mise à l'automne, ce serait bien très...
Ah ouais, il avait fait des réserves tout l'hiver.
Mais atteindre son poids de forme, c'est quelque chose, Christian, mais est-ce que le plus dur, c'est pas de le maintenir, en fait, tout simplement, peu importe la distance, peu importe ce qu'on cherche.
Ouais, alors après, moi, je crois que c'est Lydiard, l'entraîneur néo-zélandais, qui disait que l'important en compétition, c'est pas d'être le meilleur, c'est de faire la meilleure performance le jour J. Donc, pour moi, le poids de forme, il suffit de l'avoir le jour de la course. Après, je sais pas si le reste du temps, j'aurais besoin de le maintenir, quoi.
Est-ce que pour toi, comme Yodu, est-ce que tu connais ton poids de forme? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais attention?
Ouais, j'ai essayé, justement, à l'époque où j'ai essayé de performer sur marathon, j'ai essayé de faire un petit peu attention. Et effectivement, en ce qui me concerne, entre aux alentours de 78 kilos, je suis excellemment bien. En fait, j'ai suffisamment de puissance, ça déboîte, quoi. Ouais. Et par contre, je suis assez léger pour avancer vite, quoi.
Parce que c'est ça, Johan, et tu l'as encore dit, ce fameux mix entre puissance et légèreté qui est extrêmement compliqué à obtenir, et c'est peut-être encore plus dur pour les coureurs de piste ou pour les coureurs de course, que ce soit du 3000, du 5000 ou du 10 000.
Ah bah le, ouais, c'est ça, le rapport poids-puissance, c'est vrai qu'en course à pied, enfin on en entend souvent parler en vélo, les choses comme ça, mais c'est vrai que c'est un indicateur assez important. Et puis le poids, on avait fait un épisode aussi sur la... sur les défenses immunitaires.
Bien sûr.
Ce que j'ai remarqué, c'est que plus t'es affûté, plus t'es maigre, bah, plus tu chopes la première bactérie qui passe et le premier rhume qui... T'es beaucoup plus fragile, tu vois. Donc, effectivement, il faut savoir être maigre, mais il faut aussi savoir recharger la machine. Moi, je le vois, hein, quand je suis trop léger, bah, un, je tombe plus facilement malade, et deux, j'ai l'impression de ne pas pouvoir tenir les distances, et c'est d'autant plus vrai quand tu allonges les distances. Un petit gabarit sur les distances longues, ça peut être compliqué si c'est pas naturel. Après, c'est la nature aussi qui nous a fait d'une certaine façon. Moi, je sais que j'ai beau être en coupure, je sais que je monterai jamais, je pense pas dans ma vie être capable de monter un jour au-delà de 65 kilos. Même quand suis en coupure, je ne prends pas, je prends 2 kilos grand max, mais après ça s'arrête là, tu vois. Et ça, c'est la nature qui vous a doté de pas ce pouvoir, mais de la façon dont elle vous a fait. Et après, même toi, Geoffrey, t'es quand même relativement léger.
Petit gabarit,
et, pourtant, tu manges que des beignets et des cochonneries à longueur de journée. Tu ouvres son tiroir du bureau, tu peux aller voir, il n'y a que des Kinder Maxi.
Non, ça, c'est les choses secrètes des RMC Running. Tout ne doit pas être dévoilé.
Et pourtant, tu vois, t'es quand même super maigre et tout. Et donc, voilà, c'est vraiment, il faut respecter, son gabarit aussi, quoi.
Christian, ça fait rêver ce que dit Johan, de pouvoir manger et de jamais prendre un kilo.
Non, je sais pas. Par contre, j'aimerais bien lui dire à Johan d'enregistrer ce petit passage et de le réécouter dans 30 ans, les 60 kilos, tout ça.
Je te promets, on verra.
En tout cas, Christian, tout est enregistré. Forcément, on te remercie d'être venu avec nous échanger. Ça a été un plaisir de te suivre. On te souhaite le meilleur pour la suite de tes aventures. Alors, nous, avec Johan, on va te suivre à distance parce que les tunnels, 800 km, bon, c'est pas trop notre truc. Nous, on est plutôt entre 10 et 42. Ça nous va très bien. Mais on te soutiendra, bien évidemment. Merci beaucoup, Christian.
Merci.
Et puis
bon
comme
courage.
Exactement, bon courage, il va en falloir. Et puis comme chaque épisode, on demande à notre invité de terminer avec la musique. Et alors, Johan, on n'avait jamais eu ce groupe, tu vas nous dire ce que t'en penses. C'est Christian qui a décidé de choisir Chaka Ponk, ça s'appelle Dad Allorhythm. J'ai pas un anglais très bon, mais ça c'est pas mal, ça envoie ça.
Ça se boute dans le tunnel, dans le noir, là. Tu mets quelques effets de la lumière là.
Et ouais, mais tu peux pas, il n'y a pas d'écouteurs, il n'y a pas de musique.
Ah ben non, on peut pas, mais
il
faut s'en rappeler.
Il y a zéro sono, il n'y a rien.
Faut s'en rappeler.
Eh ben, Johan, tu te vois sur la piste partir sur ça?
Ah mais je vais partir trop vite si je mets ça.
Oui, c'est ça le problème, c'est que toi c'est quand même assez court.
En sur-régime.
Bon bah en tout cas, on vous laisse sur ces notes de Chaka Ponk. Je remercie encore une fois Christian, je te remercie Yodu. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'RMC Running avec Benoît Boutron qui sera de retour, ton athlète Johan. D'ici là, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer.